Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le lundi 12 avril 2021 avec l'hôpital de jour. En régie avec moi, il y a...
Marie, infirmière.
Et en studio, il y a...
Olivia, j'ai 17 ans.
Bonjour Olivia, tu es là pour la première fois à Radio Emma.
Oui, c'est ça.
Eh bien, bienvenue à la radio.
Merci.
Ensuite, il y a...
Sofiane.
Ensuite...
Nadine.
Et enfin...
Et Charlotte.
Oui, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julie Danlo. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et merci d'être venue à la radio. Julie Danlo, elle est tricoteuse de nuages, comme elle aime si joliment le dire. Elle est passionnée du monde aéronautique, donc de l'aviation, depuis toute petite, et elle a choisi d'en faire son métier. En ce jour anniversaire du premier homme dans l'espace, et oui les gars, le 12 avril 1961, c'est-à-dire il y a exactement 60 ans, jour pour jour,
me dis,
il n'y a pas de hasard, par le russe Youri Gagarin, nous sommes très fiers de pouvoir échanger avec une personne du métier qui va tout nous raconter de son parcours et de sa passion. Julie, est-ce que tu es prête?
Tout à fait.
Alors bienvenue à Radio Emma.
Merci.
Je te laisse Olivia poser la première question.
Où êtes-vous née et où avez-vous grandi?
Alors, je suis née à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, et j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine toute ma vie, à Garches et Rueil-Malmaison.
Et après, c'est près de Paris, c'est ça?
C'est près de Paris, en région parisienne, et j'avais qu'une envie, c'était d'en partir.
Et pourquoi ça?
Parce que le climat, l'ambiance des gens, la pollution, l'espèce de train-train quotidien, métro, boulot, dodo, je me disais que c'était peut-être pas ça la vie et qu'il y avait mieux ailleurs. Et quand j'ai découvert le soleil, le sud et tout ça, j'ai dit que les conditions de vie étaient bien meilleures et j'avais envie d'y aller.
Et en même temps, métro, boulot, dodo, quand on est enfant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent?
Je le ressentais en tout cas en tant qu'adolescente, avoir la tête des gens dans le RER, la grisaille, moi je suis sensible au climat, quoi. Il y a du soleil, je suis gay, il pleut depuis 4 jours, je commence à déprimer un peu, voilà.
Donc, on est des plantes.
Et j'ai pas trop besoin d'être arrosée.
Ah oh, joli.
Bien dit.
Sofiane, je te laisse poser la deuxième question.
Quel genre d'ado étiez-vous?
Alors, j'étais grande physiquement, j'ai toujours été, je suis née grande et je suis restée comme vous pouvez le voir. Et en tant qu'ado, c'était plutôt un complexe parce que les garçons étaient tous plus petits que moi. Moi, j'étais carrément au-dessus de tout le monde et évidemment, les garçons, du coup, ne s'intéressaient pas trop à moi.
J'ai vécu exactement la même chose.
D'accord, et ben voilà. Donc, c'était pas top pour moi, la période adolescente, parce que un peu complexée. Enfin, je me voyais un peu grosse. Quand je vois maintenant les photos, je me rends compte que c'était ridicule. Mais tu vois, si un prof t'interrogeait pour aller au tableau, je me souviens, le premier truc que je faisais, c'était de baisser le pull en dessous des fesses pour que surtout, on ne les voit pas.
D'avoir des gros sweatshirts,
voilà.
Des choses qui cachent bien.
Voilà. Ouais. Donc, c'était l'ado un peu complexée, un peu trop grande. Il n'y avait pas... on me traitait d'asperge quand j'étais petite en primaire. Heureusement, en tant qu'ado, il n'y a plus trop ça. Mais voilà, même si on ne le dit pas, on le ressent. Et c'était pas trop cool.
Alors, c'est intéressant parce que tu parles du rapport aux garçons, mais est-ce que tu étais sociable? Est-ce que tu avais des amis quand même?
Oui, j'avais des amis et des amis sincères et véritables, et ça, c'était vraiment cool. Après, je travaillais bien en classe. Je crois que j'étais à peu près tout le temps la première de ma classe. Donc, du coup, ça, par rapport à une bonne catégorie des gens de ma classe, j'étais vue comme un peu l'intello. Et du coup, ils avaient tendance à pas trop aller vers moi. En croyant que j'allais être pas cool, quoi. Et ceux qui me connaissaient vraiment savaient que c'était tout le contraire, qu'on peut, même si on travaille bien en classe, être cool et être sympa et rigoler. Et du coup, les amis que j'avais étaient... Il y en a que enfin, pas beaucoup, mais il y en a quand même que j'ai encore en contact maintenant. Donc, voilà.
Plein de similitudes avec Nadine, hein, quand même.
Oui, un petit peu. J'ai été aussi un petit peu grosse, un peu trop grande et un peu la première de la classe.
Bah ouais, alors.
Ça fait beaucoup.
Non, c'est fou, hein.
Ouais.
Parce que c'est vraiment... Alors, vous faites combien d'ailleurs chacune?
Moi, 1m78.
Et 1m83.
Team grande. Et toi, t'es grande depuis quel âge?
Depuis petite, hein, aussi. À l'école primaire, j'étais la plus grande. Je faisais 1m63 à 11 ans. J'ai toujours été très grande.
Donc mon espoir, c'est de te dire qu'il y a des grands et que quand ils auront bien grandi et enfin pris leur place, eh ben, tu verras ça. Après, il y en a aussi des grandes femmes qui aiment bien être avec des plus petits, hein, mais c'était pas mon truc, donc du coup c'était gênant.
C'est vachement intéressant en tout cas de voir...
Ah pour le coup, oui. Ça fait plaisir de voir encore une personne grande. Plus grande que moi, c'est rare en plus.
Ah mais je suis même pas hors norme, il y a des filles qui font plus d'1m90, tout ça. Là, les gens se retournent sur toi dans la rue. Heureusement, 1m78, 1m83, tu passes inaperçu. J'ai un copain qui fait 2m05, qui peut pas passer sous les portes.
Ah oui, c'est un peu plus compliqué.
Voilà. Il a tout le temps la même blague quand on rentre dans un bar... est-ce que tu joues au basket? Et lui, il leur répond, et toi, tu fais du mini-golf?
Préparer sa répartie.
J'adore.
Alors, c'est trop bien.
Et toi, Nadine, pour le coup, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ta taille? Est-ce que ça a été plutôt des regards?
Ouais, moi, c'était un peu du harcèlement, girafe, asperge aussi, des choses comme ça. Lorsque j'étais petite, on me surnommait spaghetti.
Ou la grande perche aussi, souvent.
Ouais, voilà.
Et comment tu l'avais vécu, ça?
Bah, un peu mal. Moi, je restais dans mon coin. J'avais 2-3 amis, grand max. Et c'est chiant parce que, du coup, la plupart des professeurs, lorsque t'es au collège, ils disent « Ouais, les garçons, venez soulever le banc. Ah, Nadine, toi aussi, viens soulever. » Et pas les autres filles.
Parce que t'étais grande, donc forte, et donc assimilée aux garçons.
Voilà. Mm-hmm. Du coup, les filles ne m'aimaient pas, les garçons avaient un petit peu peur, je sais pas, j'étais trop grande.
Ils impressionné.
Pas... Exactement.
Mm-hmm. Donc, où trouver ta place là-dedans?
Voilà.
Eh ben, bah écoutez, déjà, ça démarre très bien. Et merci déjà pour ces confidences. On va se faire une petite pause musicale avec Legacy de Tron.
Tron. Oh, ça Tron. Fait mal. Oh, mon aïe, cœur. Aïe, aïe, ah, mon aïe. Cœur. Ah, oh, je peux plus respirer. Mon cœur, il twerk. Ah, mon cœur, il twerk.
Il twerk. J'adore.
Ah, oh, je sentis pas bien. Oh,
là, j'ai l'image mentale d'un cœur qui twerk. C'est pas mal. Est-ce que tu veux nous présenter, toi,
Tron, The Legacy?
Alors, en fait, le film Tron Legacy, en fait, c'est Tron l'héritage. C'est un film de Disney qui est sorti en 2010. Et c'est les Daft Punk qui ont fait la bande originale.
Ah, bah, dis-moi ça du début.
Et moi, qui suis un énorme fan des Daft Punk, l'annonce de leur séparation, ça m'a bouleversé.
Et ouais, je veux...
En plus, ils ont fait ça avec une vidéo qui est poignante, je trouve.
Elle est belle, hein?
Non, elle est magnifique.
Très belle,
elle est magnifique. C'est pas une vidéo originale, ça vient d'un de leurs films. Et ils ont fait la bande originale de Tron. Et quand on pense que c'est Daft Punk qui fait la BO, on se dit ah, c'est bon, ils vont nous sortir du technologique et du robotrock et tout. Non. Il y a un côté techno, on reconnaît un peu leurs pattes, mais il y a de l'orchestra dedans et c'est fabuleux. Et ce morceau-là, c'est le morceau qu'il y a dans le générique de fin, que quand tu entends, tu te dis putain, oh là là, quel pied ce film. Parce que franchement, c'est un de mes films préférés, Tron Héritage, avec Matrix et Alita Battle Angel, c'est vraiment un de mes films préférés. Donc franchement, cette musique, en fait, c'est une boucle qui après, dès que la boucle est finie, on rajoute quelque chose et ça devient de plus en plus complet.
Oh.
Et après, ça part en orchestral et à la fin, t'as l'impression d'être dans un film, quoi. C'est fabuleux. Bah, c'est un film, justement. Donc,
ça tombe bien. Mmh. Bon, même magnifique introduction, en tout cas.
En plus, avec le son là qu'on a là, ça me plaît, je sens.
Wow. Et ben, on va se régaler tous ensemble avec Tron Legacy, avec la musique de Daft Punk, voilà, quoi. Mmh. Choisi par Sofiane, c'est parti. la musique de Tron Legacy, le générique de fin par Daft Punk, et c'était un choix de Sofiane. Waouh ! Là, on est dans le Cinematic Orchestra. Magnifique. Allez, on continue les questions. Nous sommes avec Julie Danlot, qui est donc tricoteuse de nuages, et vous comprendrez vraiment ce que c'est quand elle en parlera. Et c'est Nadine qui pose la troisième question.
Est-ce que votre adolescence a eu un impact sur votre parcours professionnel ?
Carrément, carrément, parce que moi, en cinquième, je me disais, c'est pas normal de pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, c'était un problème. C'est de la précocité, j'appelle ça maintenant. Mais bon, mine de rien, ça aide parce que ça m'a orientée dans mon choix d'études. Et que toutes mes copines qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire après la terminale et qui se retrouvaient bien embêtées à pas du tout vers où aller, droit, médecine ou je ne sais quoi. Moi, je n'ai pas eu ce problème parce que je savais, j'avais eu la révélation en cinquième de ce que je voulais faire. Et en fait, j'étais quelqu'un de assez, je voyais bien carré, organisé, qui aime bien gérer les choses, mettre les choses en ordre. Enfin voilà, ça m'a un peu orientée sur le métier que je voulais faire. Donc du coup... L'adolescence m'a clairement donné cette orientation. Alors, est-ce qu'on parle maintenant de ce que c'est le métier de tricoteuse de nuages ou pas ?
Parce que je ne sais pas ce que c'est. Hein.
Je sais.
C'est tellement mignon comme nom en plus, tricoteuse de nuages.
Alors, on va en parler avec la question de Charlotte et aussi pourquoi en cinquième ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La révélation. D'accord. Mais vas-y, justement, c'est probablement la réponse à cette question-là d'ailleurs. Vas-y, Charlotte.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'univers des avions ?
Alors... Déjà, j'avais deux parents ingénieurs aéronautiques qui travaillaient chez Dassault Aviation. Donc déjà, je baignais carrément dans le milieu. Et genre, j'avais les énormes posters du Rafale ou du, je sais pas, Mirage 2000 ou du Falcon devant les pyramides du Louvre. Les pyramides de Louxor ou des choses comme ça, des magnifiques posters. Quand les nanas, d'habitude, elles ont des rockstars, moi, j'avais des avions.
T'as Rihanna dans ta chambre.
Voilà.
T'avais un Rafale, c'est pas mal.
Voilà.
C'est original.
Et du coup, bon, je baignais un peu là-dedans. Mais... mes parents se disaient, il faut que tu trouves ta voie, il ne faut pas que tu suives ce qu'on fait bêtement pour nous faire plaisir. Et puis, je pensais vouloir faire pilote d'avion. Et en fait, j'étais allée au centre d'information sur l'orientation. Je ne sais pas si vous le laissez, vous voyez.
Oui, moi, je l'ai fait.
Et j'étais allée me renseigner parce que j'avais un problème au moment de la dépressurisation. Quand on descend pour aller vers l'atterrissage, j'ai un problème d'oreille à passer la pression. Je suis clair, j'ai eu des otites quand j'étais petite. Bref, un gros problème au RL. Et du coup, ça compromettait vachement le truc. Donc, quand je suis allée au centre d'information sur l'orientation, j'ai vu que globalement, avec une visite médicale tous les ans, ça allait être compliqué de faire ce métier, même si j'aurais voulu faire ça. Et j'ai tourné la page d'un magazine et il y avait marqué « Devenez contrôleur aérien ».
Enfin.
Contrôleur aérien, c'est aiguilleur du ciel.
Alors,
je ne connaissais même pas l'existence de ce métier. Et j'ai lu l'article et vraiment, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre professionnel. Mais le coup de foudre, je me suis dit « Mais c'est ça, c'est pour moi, c'est ce que je veux faire ». Pourquoi ? Parce que c'est, en clair, normalement, quand il n'y a pas le Covid, il y a tellement d'avions dans le ciel. La France est un espace aérien tellement petit avec tellement d'avions qui veulent le traverser que il faut bien quelqu'un qui au sol dise toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite, toi tu montes, toi tu descends, parce que sinon il y en aurait une collision par jour, quoi. Alors en ce moment, je vous confirme qu'il y a zéro trafic aérien et qu'il n'y aurait pas besoin de nous. C'est un peu triste, mais il y a un an et 15 jours, on était encore à fond. Et c'est un métier en fait hyper stressant parce qu'on a la responsabilité de vie humaine dans nos mains, mais hyper intéressant parce que c'est un côté, il y a ton secteur. Tu imagines que tu as un espace aérien juste pour toi. Et tout ce qui rentre dedans, il faut que tu le guides pour qu'il aille le plus vite possible à destination et en toute sécurité. Et donc, quand j'ai lu cet article, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est sûr. J'ai regardé toute la pochette aéronautique sur ça. J'ai trouvé tous les trucs. Et puis après, je suis allée me renseigner un peu plus en contactant l'École nationale de l'aviation civile qui forme les contrôleurs aériens en France. Et quand je suis sortie du CIO, il y a vraiment eu le dernier truc, quoi, la dernière touche. C'est qu'à ce moment-là, il y a un avion hyper bas qui est allé dans l'avenue, dans mon axe, qui est passé, mais vraiment un vol super bas. Et ça, je l'ai pris comme un espèce de signe. Ça y est, c'est ça que tu as trouvé. Et après, j'ai orienté toutes mes études en fonction pour pouvoir devenir contrôleur aérien.
Donc,
le plus dur, ça a été la prépa, la classe préparatoire scientifique après la terminale à l'époque S. On fait maths sup, maths spé. Ça a été le plus dur parce que faut le dire la vérité, j'en ai chié. c'est chaud, on te demande de l'intelligence du travail. Enfin bon, ça m'a vite gavée. Mais j'étais motivée, donc j'ai tenu. Et j'ai eu, heureusement, mon concours. Après, l'histoire ne le dit pas, mais si j'avais pas eu le concours, qu'est-ce que j'aurais fait? Et ça, j'avais pas d'autres idées bis. J'en avais quelques-unes, mais j'aurais toujours eu le regret de ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Et vraiment, c'était... Et donc après, j'ai fait l'ENAC et après, j'étais affectée à Aix-en-Provence.
Parce qu'en fait, voilà, l'École nationale d'aviation civile.
Voilà, à Toulouse. Et en fait, Aix-en-Provence, c'est un centre de contrôle aérien. Les gens ne le savent pas, mais c'est quand les avions sont en croisière. On n'a pas besoin d'être sur un aéroport quand les avions sont à super haut dans le ciel, à 10 000 mètres d'altitude. Donc du coup, on est dans des centres. Il y en a 5 en France et il y en a un en plein centre-ville d'Aix-en-Provence. Donc je ne travaille pas à Marignane. Je ne suis pas sur un autre aéroport. Je suis en plein milieu du centre-ville d'Aix pour contrôler tous les avions qui vont dans le quart sud-est de la France.
C'est pas fou, ça?
Voilà. Avec plein de collègues, évidemment. Je ne suis pas toute seule.
Oui, ça veut dire que ce qu'on imagine, nous, comme la tour de contrôle en général, ou qu'on voit... depuis le tarmac, en disant « Ah, c'est de là que les contrôleurs aériens, tu vois, surveillent les avions ». Pas du tout. Ils sont là pour le décollage et l'atterrissage.
Voilà. Et aussi, quand ils sont sur les taxiways, les avions, quand ils sont au roulage, quoi. Parce que mine de rien, là aussi, tu peux avoir pas mal de problèmes. Mais ça, c'est qu'une petite partie du vol. Si vous regardez bien sur un vol, ça dure quoi, 5 minutes max. Après, tout le reste, c'est avec un des gens comme moi qui sont sur les centres qu'on appelle « en route ».
Et alors, comment ça marche, justement, dans le centre de contrôle? On voit des petites taches qui survolent le ciel.
On a des écrans radars qui nous permettent de voir ces petites étiquettes, ces petits plots radars avec une étiquette associée qui nous dit qui c'est. L'Air France Zulu Tango, par exemple, qui vient de Marseille, qui va à Orly et qui est en train de monter au niveau 190, soit 19 000 pieds.
Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai mille questions à poser là-dessus, effectivement, sur le langage de ça. Mais surtout, alors on revient un tout petit peu en arrière sur tout ce que tu viens de nous dire. C'est depuis la cinquième, avec cette révélation, que l'idée s'est inscrite de faire tout le parcours jusqu'à être contrôleuse aérienne.
C'est ça. Et mes parents qui se disaient « Ah non, mais elle fait ça pour nous faire plaisir, elle veut rester dans l'aéronautique », ont tout fait pour m'en dissuader, en fait.
Ah bon ?
Ouais, ils m'ont envoyé dans des tours de contrôle, des centres en route pour que je vois à quel point ce métier pouvait être stressant ou peut-être pas ce que je voulais faire. Et à chaque fois, j'en revenais encore plus convaincue que c'était ça que je voulais faire. Donc, ils s'y sont résolus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, voilà. Et en fait, le jour où j'ai appris que j'avais eu le concours, je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie, je n'avais pas dormi de la nuit. C'est mon père qui me l'a annoncé à 23h, parce que normalement, c'était le lendemain, l'annonce des résultats, et on devait se connecter. C'était le début d'Internet, je crois, ou peut-être Minitel, je ne sais plus. Enfin, bon, mais il a regardé en avance sans me le dire, et je m'étais couchée, et il est venu me dire « Julie, tu as eu le concours
». Pa,
le cœur, comme tu dis. Ah non, mais c'est vrai, c'était l'aboutissement d'un projet hyper fort pour moi. C'était gravé en moi, je voulais faire ça. C'était en moi, quoi.
Magique. Est-ce que ça vous évoque des réactions ou des questions ou...
Moi, j'ai juste un truc à dire. C'est que j'ai la copine de mon père qui est hôtesse de l'air et qui m'avait pas expliqué ce métier comme ça. Donc, je le vois différemment.
Ah. Elle t'avait dit ces gros losers d'aiguilleurs du ciel qui sont toujours en grève.
Non. Elle m'avait pas dit ça, mais j'avais pas compris que c'était pas, ce métier n'était pas que dans les tours, comme elle avait dit. Enfin, les tours, on dirait que c'était en prison et tout.
Dans la tour de contrôle, ouais.
Et j'avais pas compris ce métier.
Mais
comme
peut-être
ça,
qu'elle en sait rien, en fait. Il faudrait lui poser la question, parce qu'en fait, le pilote, il parle dans le cockpit avec la tour, la fréquence de contrôle, et elle sait pas d'où ils sont les gens. Ils sont au sol, mais c'est pas trop doux, en fait.
Oui,
et on passe d'un centre
de
contrôle à un autre. Et c'est vrai qu'au début, c'est la tour, puis l'approche. Et puis après, ça devient, comme j'ai dit, la phase de croisière.
Je lui en parlerai.
En fait, pour vous livrer un petit secret, au départ, on avait prévu avec Julie cette rencontre en deux temps. La première, c'était qu'elle vienne vous rencontrer, vous parler. Et la deuxième, c'était que vous alliez à Aix, au fameux centre de contrôle d'Aix. Voilà. Et avec le Covid et toute l'histoire, c'est très compliqué de mettre ça en place. Mais peut-être qu'un jour, on y arrivera. Et là, ce sera assez génial de compléter cette rencontre, en fait, par voir de vos yeux vus, en plein centre-ville d'Aix, comment ça se passe de réguler les avions, quoi. Alors, mais absolument, Marie avait une question.
Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient ce métier.
Ah, c'est une bonne question. Alors, j'ai envie de te dire, il y en a de plus en plus, mais encore pas à égalité. Hein. On est à peu près, je pense, on doit être un tiers maintenant. C'est surtout un métier masculin. Mais je pense qu'avec la génération qui arrive et tout, ça va peut-être arriver un jour à 1 sur 2. Ouais.
Wow.
Mais c'est vrai que l'aéronautique, de façon générale, est surtout un métier masculin. Encore pire chez les pilotes, je pense.
Oui,
Il y a peu de femmes capitaines de bord.
Ah, très peu. Parce que aussi, c'est assez peu compatible avec une vie familiale, il faut dire la vérité. Souvent, de nos jours, la tâche des enfants est souvent léguée à la femme. Et
encore de nos jours, tu veux dire.
Encore, ouais, c'est ça. Et j'espère que ce ne sera plus le cas, mais que ce sera à égalité là aussi. Mais pour l'instant, c'est compliqué d'être commandant de bord, de partir tout le temps par des phases de 3-4 jours. Et puis pendant ça, tu dois gérer avec nous et compagnie. Enfin, c'est compliqué. Moi-même, quand j'avais voulu faire pilote, je m'étais vraiment posé la question. Et c'était aussi un frein à ma volonté d'être pilote. Donc finalement, j'ai fait pilote amateur. Je vole sur des petits coucous. J'ai emmené une fois Mika d'ailleurs. Mais
on en reparlera. Venez, on va s'écouter une petite musique en attendant. Mais merci pour déjà tout cet univers et cette rentrée dans cet univers qui est assez fascinante et très inspirante, moi, je trouve. Parce que c'est vraiment ça la raison pour laquelle j'avais envie qu'on se rencontre avec Julie. C'est que vraiment cette idée de savoir depuis la cinquième, c'est pas dit que tout le monde doit avoir un rêve en cinquième, mais quand on rencontre quelqu'un qui le vit, c'est assez génial parce que c'est rare, en effet, justement. De savoir à ce point ce qu'on veut faire et de tout mettre en place pour le faire. Ali Fight Up Club, what's happening, Nadine?
Oui. Ali, j'avais déjà mis une musique. D'ailleurs, c'était à la précédente rencontre avec l'autrice de
bande dessinée, oui, Mathilde Domecq.
Et c'était pas prévu. Enfin, j'avais déjà l'idée de mettre cette musique, mais comme quoi, ça tombe bien. Et du coup, c'était par rapport à ce que tu avais dit la dernière fois que Ali faisait des musiques un peu cool et tout ça. Et que tu m'avais dit que c'était un ending et c'était pour ça et tout ça. Bah là, c'est encore un ending.
Oh.
C'est toujours Ali, mais c'est beaucoup plus peps.
Ouh, ok.
Donc voilà. Ah d'ailleurs, j'ai appris que Ali, ça voulait dire Alien Liberty International.
Oh.
Donc voilà.
Ok.
La liberté internationale des aliens.
On va monter le club.
Je suis un peu déçue.
Oh. Allez, on s'écoute ça. Donc par Ali, Fight Up Club, c'est parti. Yo, Ali. What is it, Chef X? Yo, Chef X. Rui. Me, Rui. RV. Three bad combination. Yo, Rui, boy, watch it now. この気持ちがもう抑えきれない野生の本能は止められない心臓の鼓動まだ速くなれ体が動き出して熱くなれさあ戦いの焚き火はゲラ自由を掴む拳はゲラ混沌としたコンクリートジャングル駆け抜けてこれたちファライヤーああ気圧は体を貫くような刺激的な音の中全ての感情を音に委ね踊り狂え心から雑音かき消すバックを鳴らして体温へと向かげ情熱の透過線に火をつけ空高く舞い上がれ Showing the eyes of infancyenemies never feel the strong bass like this in my life howling at the sound made me crazy and frenzy like an angry blue dog was set into free fly cause I wanna set you free cause I wanna let you see somewhere standing down and when it starts to glow and go Fly away 超える苦悩はまた燃えるプッシュ羽ばたく Bad boy のラバダブ削り合いのファイトクラブこれが緊張の糸弾いた時響く振動ロンドリー行動ソウルが打ち抜け相手の心臓急に始まって急になくなったそんなもんじゃねえわこいつは熱くなり燃えた壁を飛び越えた情に舞ったファイヤーファイアウェイWe'll be right back.
と死神すらも味方につく誰が俺たちを縛りつく目の前に壁を睨みつか光ることで超える極めつかその向こう側何も見つか決して消せないこの火をつけ FireWay
Ali, Fight Club Dub, Fight Dub Club, pardon, il faut le mettre dans le bon sens, c'est pas grave, Club Dub Fight.
Sofiane avait une remarque que je partage complètement, cette musique nous fait penser à la fin de Slumdog Millionaire.
Mais oui.
Parce que allez. Ça faisait un peu un côté indien mais moderne.
Sauf qu'il est japonais.
Ouais, mais c'est et en anglais, voilà. Mais le style fait vachement.
Non, je crois que c'est même en japonais.
C'est en japonais, mais on dirait en espagnol l'anglais. Et en anglais.
Exactement.
C'est les trois langues en fait.
Il y a un côté un peu comme J-Ho un peu.
Oui, c'est ça, waouh.
Et tu l'avais appelé le plus international des japonais,
le
justement.
Le plus international des japonais,
carrément.
Parce que le mec, il chante, t'as pas du tout l'impression que c'est du japonais, tu reconnais pas trop la langue, en fait.
Non, c'est et vrai. Puis c'est inclassable, hein. C'est vrai que c'est...
Et voilà, exactement. Nous sommes de retour avec Julie dans l'eau, qui est donc tricoteuse de nuages. D'où vient ce terme, d'ailleurs?
Alors, je l'ai emprunté à une copine qui, en fait, sur les sites de rencontres, si tu dis contrôle aérien, tu
fais... Mais il n'y a que des histoires de mecs ou quoi dans cette histoire? J'étais trop grande pour les garçons,
non,
sur les
mais
sites de rencontres.
Pour pas faire peur aux gars et pour pas donner tout de suite... tu vois, tu disais un petit côté romantique, poétique. Et elle a trouvé ça et je lui ai emprunté parce que je trouvais ça super,
c'est magique,
super mignon.
C'est magnifique.
Donc, spéciale dédicace à Anne-Line.
C'est trop mignon, tricoteuse de nuages.
C'est trop beau.
Et
j'adore.
C'est vrai, c'est complètement ce qu'on fait, parce qu'on donne des caps toute notre journée, donc du coup, on croise des traînées d'avions. D'ailleurs, je voudrais casser ici aujourd'hui une légende urbaine. Arrêtez de... C'est les gens qui disent qu'il y a des trucs chimiques dans les traînées d'avions.
Tu sais, les traits blancs qu'on voit derrière
voilà.
Les avions.
Ah, moi, je pense pas du tout ça. Moi,
il y a des gens qui sont convaincus qu'on met des trucs pour endormir les gens dedans, ou des choses comme ça.
Pourquoi?
Sérieux?
Mais oui, mais tu sais, la théorie du complot, toujours.
Quoi?
Mais c'est un truc super sérieux, vous ne rendez pas compte. Vraiment,
non,
souvent,
ça, c'est
on parle de ça quand je parle du métier. Donc ça. Non, dans les chemtrails, il n'y a que la vaporisation du gaz qui fait que l'avion
quand
il se déplace
dans
une... C'est pas l'essence, non. En fait, c'est parce qu'il est dans une masse d'air qui est plus ou moins humide
oui,
en fonction de la chaleur.
Je veux dire, c'est comme l'essence que je veux dire qui
oui,
sort,
voilà, qui fait le pot d'échappement. C'est la même chose.
Ça fait comme des nuages, en fait. Ça fait comme des nuages, en fait.
Voilà, d'où le mot.
Wow. En plus, les gens qui croient ça, c'est comme ceux qui disaient la 5G, c'est une puce électronique qu'on va nous injecter.
Voilà,
cerveau,
c'est la même, mais... c'est les mêmes.
Même principe.
Bien sûr.
C'est le même club. Marie avait une question à poser.
Oui, une question par rapport à tes frères et sœurs, si tu en as, et si oui, que font-ils comme métier du coup? Parce que j'avais.
Alors, j'ai un frère qui a un an et demi de moins que moi.
Enfin,
on était très proches. On était, quand on était enfants, d'ailleurs, on était les meilleurs ennemis, meilleurs amis. Mmh. Et on est toujours très proches. Et en fait, il a fait un truc qui n'a rien à voir avec l'aéronautique. Il est dans la magistrature. Donc, c'est le vilain petit canard de la famille. Non, je rigole. La magistrature, ouais, il est juge.
Ouais, il est juge, ouais.
Ah, ouais,
c'est ce que j'allais dire. Travaille dans les palais de justice.
Voilà. Sauf qu'en ce moment, il est à Moscou. Il travaille à l'ambassade de France à Moscou. Il est détaché de justice en Russie.
D'accord.
Ah ouais.
Eh ben.
Ça doit être un beau métier.
Ça a l'air très intéressant.
Ouais, tu dois voir plein de choses très intéressantes.
Ouais,
je pense.
Des fois gore, mais très intéressant.
ouais, gore.
Alors, c'est en tout cas magnifique tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça fait en fait, pour situer aussi les choses par rapport à la magistrature, vous êtes tous les deux fonctionnaires d'État, ton frère
tout
et toi.
Tout à fait, tous les deux fonctionnaires, service public à fond. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais pour l'instant, ouais.
Mais c'est vrai que c'était intéressant de le savoir. Alors, on a une autre question, Olivia, que tu peux poser maintenant.
Avez-vous une histoire en particulier à raconter au sujet d'un vol ou de votre métier?
On a parlé de Alien. Moi, j'ai une histoire par rapport à ça. Il y avait un jour un vol qui venait donc de l'Algérie, qui était au-dessus de la Méditerranée. Et le pilote me contacte et qui me dit qu'il est avec une voix très paniquée. Marseille, on a un truc qui est bizarre autour de nous. Vous avez quelque chose au radar? Il faut savoir que nous, si on voit quelque chose sur le radar, c'est parce que la machine volante a un petit appareil qui nous permet d'être vu. On n'est pas des militaires qui sommes là pour faire la sûreté du territoire. Donc du coup, on n'a pas un détecteur passif, quoi. S'il y a une canette de métal en l'air, les militaires, ils vont le voir parce qu'ils ont un détecteur, on appelle ça les radars primaires. Nous, c'est seulement si tu veux être vu, t'es vu. Et autour de lui, je mets toutes les couches pour voir tout ce qui peut se passer dans le ciel, mais à mon niveau, il n'y avait rien. Et là, il me dit, vraiment avec la voix très angoissée, c'est quelque chose qui nous tourne autour et qui vient juste à côté. Alors là, je contacte les militaires pour dire, est-ce que vous voyez quelque chose, vous, sur votre radar primaire? Et ils me disent, ben, en fait, il est trop dans les eaux internationales et notre radar ne porte pas aussi loin. Par contre, dans exactement genre 24 nautiques, je ne sais plus exactement, mais on va dire 24 nautiques. Donc, pardon, on parle en nautique dans l'aéronautique parce qu'on fait un système anglophone. Donc, bref, ça fait, on va dire, à peu près 35 km. Et on le verra. Et ça, je ne le dis pas au pilote. Et le pilote, il me dit, ben ouais, c'est encore là, ça nous tourne, on ne voit pas bien, mais c'est un truc métallique, en sphère, je ne comprends pas. Et en fait, pile poil, 24 nautiques après, il me dit, ça y est, enfin, juste avant, ça y est, ça vient de partir, il n'y a plus rien. Donc, en fait, comme si c'était quelque chose qui voulait ne pas être vu, puisqu'il savait. Donc, vous en concluez que c'est un alien ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Ou c'était peut-être un militaire étranger qui ne veut pas être vu des Français et qui s'est approché. Normalement, c'est interdit de s'approcher d'un aéronef civil comme ça. Mais voilà, il y a des histoires, des anecdotes comme ça où des fois, on ne sait pas trop. Moi, je ne suis pas trop... Je crois pas trop à ces choses-là, mais ouais. J'ai eu un cours à l'ENA qui avait un cours très sérieux d'un gars qui nous expliquait tous les phénomènes paranormaux reportés par des pilotes très sérieux en vol, qui n'ont jamais parlé avec un capitaine de gendarmerie qui, au sol, avait constaté et déposé un truc au même moment, au même endroit. C'est un peu flippant, on sait pas trop.
Un échange qui n'a jamais eu lieu
et que lui a rapporté au même moment, et des enquêtes très sérieuses avec des gens très sérieux, du CNRS qui vraiment nous faisaient, pas CNRS, du Centre National des Études Spatiales ou je sais plus quoi. Et du coup, le gars, il nous avait dit, j'ai essayé de trouver un lien entre les reports qui des fois sont hyper nombreux pendant une année, il y a genre je sais pas combien de 500 reports, et puis des fois il y a rien. Et j'essaie de comprendre pourquoi des fois on a des reports, des fois on n'a pas.
Reports, c'est quoi ?
Des reports de quelqu'un qui, de sérieux, une enquête. D'accord. Qui permet de voir que c'est quelqu'un de sérieux, qui reporte quelque chose d'anormal. Et en fait, il avait fait un lien, c'était avec, a priori, notre activité nucléaire sur Terre. Dès que tu as des envois, des essais nucléaires, il y a de plus en plus de reports, de phénomènes paranormaux, c'est pas extraterrestre ou je ne sais quoi. Et quand t'as rien, eh ben, y a rien. Donc en ce moment, il n'y a pas grand-chose.
C'est parce que les Men in Black, ils ont intervenu, c'est pour ça.
Et voilà la petite anecdote. Bon, sinon, il y a des fois des trucs où c'est juste un passager.
Attends, Nadine avait une question.
C'était vraiment genre un objet sphérique.
Ouais, il avait décrit ça comme un truc sphérique qui lui tournait autour, qui se rapprochait, qui s'éloignait, qui tournait autour de l'avion. Et
mais c'est fou, en plus de tourner autour d'un avion qui est en plein vol.
C'est pour ça. C'est pour ça. Actuellement, l'être humain n'est pas censé avoir cette connaissance de pouvoir faire un objet comme ça. Oui. Mais le problème, c'est que quand on parle d'avions militaires et tout, il y a ce qu'on nous dit et puis il y a la recherche
qui est cachée.
Pas cachée, mais la recherche qui est gardée top secret pour pouvoir avoir une puissance de frappe ou je ne sais quoi. Donc, c'est possible que ce soit un militaire étranger d'un appareil.
Non, en tout cas, c'était un ovni, du coup.
Voilà.
Est-ce que vous êtes déjà monté dans un avion privé ou un petit avion
Je ne suis jamais allé dans un avion.
Tout court ?
Jamais.
Moi, c'est vrai, jamais. C'est peut-être la première question.
Ah, c'est ça la vraie question, c'est ça.
Waouh !
D'accord.
Je n'ai jamais pris l'avion et moi, j'ai plus peur de l'avion que des bateaux. Moi.
Pourquoi ?
Parce que je suis quelqu'un qui a énormément le vertige.
D'accord.
J'ai vraiment le vertige.
Et si tu ne regardes pas par le hublot ?
En fait, ce n'est pas regarder par le hublot qui me dérange. Au contraire, ça doit être magnifique par le hublot. Il y a des vues superbes.
Je confirme.
Mais le fait de me dire, oh la vache, je suis dans un appareil qui a des mètres, à des énormes, des centaines de milliers de mètres d'altitude du sol. Le moindre couac, et là on s'écrase comme des merdes. Hein. Moi je fais caca culotte quand je pense à ça.
C'est mignon.
C'est horrible. Moi.
Pense à la Hudson River où ça s'est bien terminé.
C'est quoi ça pilote,
l'épisode à New York de un pilote américain qui a eu un problème au décollage à cause de doigts du Canada qui sont passés dans ses réacteurs.
Non,
ils se sont
pas.
Tous éteints. Et du coup, il n'a pas pu aller retourner sur le même aéroport ou aller sur un autre. Wow. Il s'est posé sur la Hudson, la rivière Hudson.
Non, mais c'est pas grave, on ne connaît pas, on découvre. On comprend l'histoire
c'est fou,
qui est qu'en fait, le gars a réagi. Et
Captain
qui, du coup,
Sully.
Il a améri.
Il a améri sur la rivière et il les a tous sauvés.
Ah, enfin, quand même.
Ils n'en ont pas fait un film ?
Si. Avec
Forrest
Gump.
Tom
Hanks.
Ah, waouh.
Je crois qu'il s'appelle Sully, en plus, le film. Le nom du capitaine.
Magnifique. Magnifique, Charlotte.
Une question bête. Est-ce que l'avion, quand il est posé sur l'eau, il coule ou il peut...
À terme, il coule. Mais en fait, surtout celui-là, il a eu je ne sais plus combien de temps pour flotter. Et du coup, ça a été le temps que les gens sont passés sur l'aile.
Ouais.
Et il y a eu des canaux qui ont été mis et que tout le monde a pu sortir de l'avion avant qu'il coule. Mais oui, à terme, un avion, ça coule. Okay. Avec le poids du moteur, c'est obligé. Mais ta copine qui est hôtesse de l'air, elle pourrait
t'en parler. C'est pas ma copine. C'est la copine de mon père.
Pardon. Alors, la copine de ton père qui est hôtesse de l'air, elle pourrait t'en parler. C'est à ça qu'ils sont, ils sont formés, en fait. Ils servent pas que des boissons dans les avions. Oui. Ils ont aussi tout un métier de savoir faire des sorties d'urgence. Et c'est là que tout se joue, parce que des fois, t'as que 30 secondes et pas une minute. Et donc, si les gens ont été efficaces et que tout le monde a pu être sorti en temps et en heure, ça se passe bien. Si c'est un équipage qui est un peu rouillé, qui savait plus faire. Heureusement, ça n'a pas lieu parce qu'il y a des normes qui les obligent à faire du contrôle continu et tout ça, c'est là que tout leur métier prend sens en fait.
Elle m'a expliqué qu'une fois par an, elle a un genre de stage pour réapprendre, on va dire, les gestes et les choses à faire en fait.
Ou maintenir la connaissance, parce qu'en fait c'est ça, c'est entretenir quoi.
Oui, parce que ça change très souvent, ça évolue.
Ah, ouais. Ça évolue, il y a des nouvelles normes et puis il y a aussi le maintien de compétences. Les pilotes, s'ils font que de la routine à faire toujours des décollages et des atterrissages où tout se passe bien, à la fin, ils sont rouillés, ils savent plus faire. Donc pareil, les pilotes, ils ont des stages où on leur met des trucs, il y a l'orage, il y a le feu à bord, enfin des pires conditions en simulateur pour pouvoir réviser ce que c'est qu'un atterrissage en urgence sur une rivière.
Mais on dit que en fait, pratiquement le transport le plus sécuritaire, c'est l'avion.
C'est pas pratiquement, c'est sûr. Et de
c'est
loin,
ce que je voulais dire, on a plus de chances d'avoir un accident de voiture qu'un accident en vol.
À 100%, mais carrément. Ouais. L'avion est encore le moyen le plus sûr de voyager. Après, c'est vrai que, comme dit Sofiane,
moi je préfère les bateaux.
Des fois, quand ça se passe mal, les conséquences sont vite dramatiques, mais elles ne sont pas systématiquement. Et puis, c'est vraiment une faible, très faible probabilité. Alors qu'en effet, l'accident de voiture, c'est
plus de chances.
Et on fait confiance justement aux aéroports, aux compagnies et à tout le corps de métier pour évidemment mettre en place les normes de sécurité les plus fiables. Mais ça reste le moyen de transport le plus fiable quand même.
Ouais.
Olivia, toi, t'as déjà pris l'avion ?
Non, mais j'ai fait une simulation de vol.
Oh la vache ! Dans un vrai simulateur ou avec un joystick devant un ordi ?
Non, dans un vrai simulateur.
Ah, parce qu'il y a les deux qui existent. Et donc, tu avais la sensation de quand tu tournes à gauche, le simulateur avait...
Non, on était sur un siège et c'était plusieurs écrans qui étaient face à nous.
Mm-hmm.
Mais on avait tous les contrôles. Enfin, on n'y touchait pas, mais...
Et tu as réussi ton... Ah non, tu n'as pas pu toucher et essayer d'atterrir.
Si, j'ai pu essayer d'atterrir, de voler. Et,
c'était comme si tu étais dans un cockpit, en fait.
Voilà, c'est ça. C'était comme dans un cockpit. Et je me suis crachée plusieurs fois.
C'est bien, les simulateurs. Hein.
Et bon, j'avais mon cousin qui était avec moi, du coup il s'amusait à me tirer dessus.
Ah bah yes.
Ah bah oui, les conditions les plus idéales.
Voilà, mais bon, je me suis vengée, donc pas de soucis.
Mais en fait, la question de Mickaël est intéressante parce que c'est vrai qu'un avion de ligne, ça n'a rien à voir avec un petit coucou. Les petits coucous, on a beaucoup plus la sensation de quand on tourne, eh ben, on voit le sol s'incliner et tout ça, et du coup l'oreille interne est beaucoup plus perturbée que dans un avion hyper gros avec un pilote de ligne, c'est vraiment pas les mêmes sensations de vol. C'est pour ça qu'elle vous posait la question.
Ouais. Et toi, Charlotte, t'as déjà pris l'avion et d'ailleurs Nadine aussi.
Ouais, moi j'ai déjà pris l'avion. J'ai beaucoup voyagé quand mes parents ils étaient encore ensemble et qu'on avait le droit de voyager. Ouais. J'adore voyager, donc ouais. C'est vraiment quelque chose qui me manque, ça, par contre, voyager, partir. Même, je me rappelle, cet hiver, je suis partie à Toulon. Donc ça, une heure et demie de Marseille.
Ouais, ouais.
J'étais trop contente.
Mais tu m'étonnes.
J'étais trop contente. J'en parlais pendant 20 fois à mon père et tout. Mon père, au d'un moment, il m'a dit, bon, maintenant, ça suffit. Calme un peu, s'il te plaît, parce que...
On a compris.
Voilà. Mais j'étais trop contente. C'était la folie.
Bah, je suis comme toi, pareil.
Ah ouais ?
Ah ouais. Voyager, c'est vraiment, vraiment un grand plaisir qui a été donné par mes parents aussi.
Ouais, ouais. Ben, moi, mes parents ont toujours beaucoup voyagé. Et en fait, le truc que j'aimais bien aussi, c'est que quand on partait en voyage, on revenait toujours avec un souvenir. Et nous, c'était les manettes. Et du coup, je sais pas combien j'ai de manettes sur mon frigo.
Très sympa.
Et ça, c'est ça, j'aime bien.
Ouais. Et Nadine ?
Moi, du coup, j'ai pris l'avion environ 30 fois dans ma vie.
Waouh.
Donc, ouais, c'est pas mal vu que moi, j'ai de la famille en Belgique et au Maroc.
D'accord.
Donc, on va les voir une fois par an, les deux. Du coup, ça fait quasi deux fois par an, peut-être des fois non. Du coup, moi aussi, ça me manque de voyager, accessoirement. Et la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 6 mois.
Waouh, c'est ça que je voulais vous demander. Ouais.
J'étais un tout petit bébé, je m'en souviens pas du coup, mais pour moi, logique. Mais pour moi, l'avion, ça va de soi en fait. C'est pour ça, à chaque fois que je rencontre une personne qui a jamais pris l'avion, je me dis, oh, t'as jamais pris l'avion, c'est fou.
Moi, j'ai une anecdote. Je suis partie en voyage. Enfin, j'ai fait un... Mes parents, ils nous ont... Enfin, on est partis en bateau, quoi. Et c'était un moment où j'avais regardé Titanic. Et en fait, notre cabine, elle, enfin, la salle de bain, les toilettes étaient réunies. Et donc, on avait pris la douche et tout. Moi, j'étais dans la salle de bain. D'un coup, je sens de l'eau. Et j'avais crié, maman, maman, on coule, on va mourir. Mais en fait, non, c'est juste ma soeur qui avait pris la douche. Et tout le monde...
C'est génial.
Mais mes parents, ils étaient morts de rire. Moi, j'avais peur parce que j'avais vu le Titanic et tout. Alors, du coup, j'étais là, génial. Oh mon Dieu, je vais faire comme Jack et Rose et tout. J'étais là, j'étais en train de paniquer. Mais en fait, pas du tout.
Je prends sur ma planche. Attends, je ne sais plus.
tu vas te laisser crever comme ça. Tu vas te laisser crever.
Allez, les amis, on va se faire une petite pause musicale en écoutant le choix de Julie, justement, Nina Simone. Sinner Man, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus?
Bah, c'était une spéciale dédicace pour toi, Mika, puisque c'était le seul truc qui nous sépare sur la musique, c'est que je n'aime pas le jazz, mais c'est, voilà, c'est un certain style de jazz que j'aime pas, et ça, j'adore.
Non, mais alors là, pour le coup, quand même, Nina Simone, effectivement, ouais, grande prêtresse de la musique et pas que du jazz, pour le coup.
Je connais le nom, mais je connais pas l'artiste.
C'est vrai.
Alors, t'as qu'à regarder le film L'affaire Thomas Crown. Pas le premier, mais celui de 1999. Il y a cette scène où il vole le tableau et c'est avec cette musique-là et c'est crescendo et c'est magnifique.
Ouais, je l'ai vu, j'ai filmé, je l'aime bien.
Oui oh, mais magnifique! Allez, on s'écoute ça, c'est parti. Nina Simone, Sinner Man.
Sinner Man, where you gonna run to? Sinner Man, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Go to the devil, the Lord said.
Nina Simone, Sinner Man. Magnifique, magnifique. On est de retour sur Radio Emma avec Julie Danlot qui nous raconte son métier, son parcours, donc de contrôleuse aérienne et de tout le milieu des avions et de l'aéronautique. Sofiane, à toi de poser la question.
Alors, est-ce que votre métier vous a donné le goût du voyage ou est-ce le goût du voyage qui vous a donné envie de faire votre métier? Je crois qu'elle a déjà répondu, en fait, je crois.
Ouais, mais mine de rien, c'est un peu les deux, hein, parce que, comme je vous ai dit, j'avais commencé les voyages avec mes parents et du coup, on a aussi beaucoup pris l'avion et j'aimais cet univers du décollage, la vibration, on quitte le sol, tiens, on va vers l'inconnu, ça plaisait. Et puis, c'est vrai que quand je contrôle, je pense à tous ces gens qui sont en voyage, professionnels ou pas, mais ça fait un peu s'évader aussi. Donc, c'est lié, c'est une boucle. Il n'y a pas de cause et conséquence, c'est les deux.
Et parce qu'effectivement, on mentionne le fait que tu es beaucoup voyagé, que tu as un appétit pour le voyage, la découverte aussi, effectivement.
L'aventure,
absolument. Eh bien, ça tombe bien parce que ça vient avec la question d'après par Nadine.
Est-ce que votre métier demande des compétences particulières?
Et par là, je pensais aussi au sport, à l'aventure, au goût de l'aventure, à la passion aussi.
Alors, on est beaucoup de contrôleurs aériens et je suis sûre qu'on est tous différents avec différentes compétences. Mais je pense quand même qu'il faut être un peu... la gestion du temps doit être importante dans ta vie, quoi. Parce que quand c'est à une minute près, il va y avoir un conflit sérieux entre deux avions. Faut pas être du genre à dire je sais pas, je me tâte. Peut-être que je vais tourner à gauche, je suis là, ou peut-être que je vais le descendre. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Non, ça c'est pas possible. Faut obligatoirement être du genre à dire tac tac, méthodique et faire ce qu'on doit faire. Après, le sport, c'est ce qui me permet de m'évader de ce métier qui est un petit peu, des fois, un peu stressant. On travaille jamais plus que 2h30 d'affilée parce que sinon, c'est la norme pour pouvoir
être attentif
à 100% et sachant qu'on est deux toujours derrière le même écran radar pour pouvoir vérifier ce que la personne fait. Et contrôler qu'elle fait pas de bêtises. Et le sport, c'est vrai que c'est, on a beaucoup de temps libre et pendant ce temps libre, eh ben, j'aime bien aussi me défouler par la montagne, les sports un peu actifs en montagne. Et c'est peut-être une recherche de l'adrénaline qu'il y a aussi un peu dans mon travail. C'est vrai que c'est l'adrénaline, il y a du positif et du négatif. Et des fois, c'est un peu addictif, l'adrénaline. On aime bien ce petit cœur qui commence à palpiter parce qu'on a beaucoup d'avions qui veulent aller tous au même endroit et qu'il va falloir faire quelque chose. Bon, ça fait... Allez, hop, on se donne un petit coup de cravache à soi-même et puis c'est parti. Et quand ça s'est bien passé, c'est nickel, et on est fiers de son travail, ça fait du bien.
Parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais en fait, ce métier-là est extrêmement exigeant et extrêmement porteur de responsabilité. Parce qu'on ne mentionne peut-être pas assez la responsabilité que ça implique, mais imagine...
Forcément, s'il y a une collision, il y a 400 passagers qui...
Voilà, et c'est donc, un jeu vidéo où on a une seule vie, donc du coup...
Il n'y a pas de respawn pour le coup.
Je ne sais pas si vous êtes, toi qui as peut-être déjà pas mal voyagé, Nadine, est-ce que tu t'es déjà posé la question de se dire, est-ce que ça pourrait m'arriver de croiser un avion?
Oui, très souvent. Je me suis toujours posé la question, et s'il y a un avion qui arrive maintenant, est-ce que je peux voir un avion à côté de moi ou des choses comme
voilà,
ça?
Voilà, sans forcément penser au crash, mais juste voir un avion à côté de soi. Comment c'est possible que ça n'arrive jamais alors qu'il y a autant d'avions en vol au même moment?
Eh bien, justement, parce qu'il y a des êtres humains au sol qui sont là pour veiller à la sécurité du trafic et à espacer chaque avion de 1000 pieds, donc 330 mètres à peu près entre chaque avion en hauteur, et 5 nautiques, donc 8 km en latéral entre deux avions. Et donc, vous imaginez une sphère autour de votre avion et il n'y a aucun autre avion qui doit rentrer dedans. Ou alors, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait une bêtise.
Je crois une fois, il y a quelqu'un qui a fait une bêtise parce qu'il y avait un avion qui était vachement proche quand même.
Alors attention, quand on croit qu'il est vachement proche, 350 mètres, je ne sais pas si tu imagines, mais quand toi tu vas à 800 km/h, ça paraît très très près et pourtant il n'est pas en face à face avec
pourtant
toi.
Pourtant il est loin d'accord.
Voilà, ça va. En latéral, 8 km, ça paraît beaucoup quand même, 8 km.
Donc la rigueur, le sport, quelle autre compétence pourrait en tout cas demander ce métier?
Pouvoir se lever à 3h du mat et être super efficace. Les gens qui disent « Ah non, moi sans mon café, je suis rien », c'est compliqué parce qu'on a des horaires décalés, on travaille, évidemment, il y a des avions qui volent H24, 7 jours sur 7, même le jour de Noël et tout ça, donc il faut savoir s'adapter et puis aller travailler le dimanche et savoir faire une grosse journée ou des fois une nuit, enfin voilà, c'est tout le temps... On est en horaire décalé, quoi. C'est sous un phénomène de cycle. Et c'est vrai que le rythme humain, le cycle circadien, comme il s'appelle, ça ne respecte pas du tout notre cycle normal de sommeil et tout ça. Donc, il faut compenser. en dormant de façon décalée ou en se reposant ou en prenant un peu de café pour se tenir bien éveillé la nuit et pas s'endormir parce qu'il y a moins de trafic. Mmh. Mais il y a quand même encore des gens. La nuit, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'avions de la poste et d'ambulances qui volent.
Et nous, en tant que passagers, est-ce qu'il vaut mieux qu'on choisisse des vols de jour ou des vols de nuit ?
Franchement, faites confiance aux êtres humains, il n'y a aucun problème. Et à la technique.
Oui, ça roule.
Volez quand vous voulez. Cool. Surtout Sofiane.
Faites confiance aux êtres humains, oui.
Bah oui, plus qu'aux machines.
Ouais. Non ?
Quoique après, il y a des failles.
Alors, pas aux êtres humains sur toute leur valeur, mais en tout cas sur leur compétences. De ouais. métier,
oui.
Et le fait que tout soit croisé pour que justement, s'il y en a un qui est un peu moins compétent un jour, il y a son collègue qui peut prendre la relève.
D'accord.
On fait beaucoup, quand il y a un accident ou un incident, quelque chose qui est passé près, il y a toujours un retour d'expérience. On appelle ça les REX. En aéronautique, c'est hyper important parce qu'on dit comment ne pas reproduire le même phénomène. Et en fait, on se rend compte que souvent, un accident vient de l'accumulation de plusieurs failles, de plusieurs choses,
oui,
des êtres humains, de la technique et tout ça. S'il y a un moment, il y en a un qui dit non, stop, on est en train de faire une bêtise, on revient, hop, l'accident n'a
j'ai
pas
compris,
lieu.
J'ai compris, je ne peux pas y penser, oui, j'ai compris.
Bah non, au contraire, je trouve ça hyper rassurant, moi.
Mais non, c'est tant mieux, enfin,
ah ouais, carrément.
De savoir que ce n'est pas juste un seul regard, qu'il y a plein de regards, qu'il y a plein d'étapes avant un décollage et tout, il y a la vérification de l'avion, il y a plein de gens. Du coup, si ça passait par une seule personne, là, c'est sûr que je ne prendrais jamais l'avion. Mais
j'ai compris la base.
Pour l'instant, on n'a toujours pas réussi.
Et toujours pas convaincu.
Non. Bon. Non, mais je ne me convaincrai pas.
Allez, pour l'instant, on va te convaincre avec la musique UB40, Red Red Wine. C'était le choix de...
Olivia.
Magnifique. Olivia, est-ce que tu veux nous dire un truc par rapport à cette chanson ?
Oui, enfin, je l'écoute souvent avec ma meilleure amie quand on est toutes les deux et qu'on n'a rien à faire.
Allez, c'est parti. Red, red wine, un peu de reggae sur Radio MR. UB40, c'est parti.
It's up to you.
UB40 Red Red Wine. On est de retour sur Radio Emma avec Julie Danlot qui nous parle de son métier, de ses passions pour les métiers de l'avion, de l'aéronautique donc. Et on finit avec la dernière question, Charlotte.
Alors, reste-t-il un peu de l'ado que vous étiez dans l'adulte que vous êtes devenu ?
Ah,
c'est une belle question ça.
Écoute, je crois pas. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais un peu complexée. Puis l'adolescence, je trouve que c'est un peu une période que qui n'est pas terrible. On ne s'aime pas, on se cherche, c'est compliqué.
C'est pas faux.
Et maintenant, je vais le dire, j'ai 40 ans. Ça fait bizarre de dire ça. Mais j'ai 40 ans. Et,
depuis cette année, enfin, très nouvellement.
Ouais, voilà. C'est ça qui est dur. Et enfin, j'accepte à m'accepter. Et ça, du coup,
Je m'accepte.
Je m'accepte, voilà, je m'accepte. Et...
J'accepte à m'accepter.
Non, mais c'est un vrai travail en deux fois. Mais bon, bref, globalement, si j'ai un conseil à vous donner, d'ailleurs, c'est, comme je disais, quand je regarde les photos de l'époque, je me dis, mais en fait, j'étais vachement bien foutue. Qu'est-ce que je me suis polluée la vie. Les magasins féminins là, qui te donnent une impression que t'es vraiment trop grosse, c'était de n'importe quoi. Heureusement, ça a changé, mais encore, il y a encore un énorme travail à faire là-dessus. Eh bien, c'est dommage, on se pollue la vie. Et c'est quand c'est trop tard qu'on se dit, mais c'est là que t'aurais dû en profiter, c'est là que t'étais jeune, c'est là que t'aurais pu faire plein de trucs et que t'aurais pu t'accepter, que c'était cool. Et ben voilà. Enfin, à 40 ans, je pense que ça y est, je suis mieux dans ma peau et que du coup... après, je dis pas que l'adolescence est synonyme d'être mal dans sa peau, mais c'était en tout cas pour moi une période pas facile en rébellion vis-à-vis de ma mère qui avait un fort caractère tout comme moi, donc ça peut donner des clashs. Enfin, voilà, ouais, c'était... Je regrette pas cette période trop, je vous l'avoue.
Magnifique, waouh. Je trouve ça très fort aussi. Alors, est-ce que c'est « j'accepte de m'accepter » parce que moi non plus, j'ai du mal saisir le « j'accepte à m'accepter ».
J'accepte de m'accepter.
C'est une façon, en fait, de bien envisager le travail qui se fait. Comme quoi, vous savez que la route ne s'arrête pas. Je n'ai pas envie de dire qu'elle est longue, j'ai envie de dire qu'elle continue. Accepter de s'accepter, c'est vraiment faire ce travail sur accepter ses défauts, accepter ses qualités, parce que ce n'est pas évident. On a souvent tendance à valoriser plus nos défauts que nos qualités et avoir du mal à se dire qu'on peut être quelqu'un de bien. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'investir, parce que c'est important de reconnaître ce qu'on fait de bien. On a beaucoup tendance à accentuer ses défauts, à se dire qu'on vaut rien, à se dire que ça, on le fait mal. Et c'est vachement important aussi de reconnaître ce qu'on fait de bien, et sans imaginer que ce soit de la prétention pour autant, c'est juste accepter ces choses-là. Donc accepter ses défauts et ses qualités, et accepter de s'accepter comme on est, dans sa globalité, bah, c'est magnifique. Merci Julie. les amis, on va se quitter parce que l'émission touche à sa fin et je suis ravie, en tout cas pour ma part, d'avoir fait cette rencontre, cet échange et cette émission. Donc merci beaucoup.
De rien, et le rendez-vous est pris. Si jamais un jour il y a à nouveau du trafic aérien et qu'on peut recevoir du monde extérieur dans notre salle de contrôle, je m'engage à ce que vous puissiez venir et voir mon environnement de travail.
Moi, avec grand plaisir, pour le coup. Je suis très curieuse de voir tout ça.
Ah oui, moi aussi. Vrai. Et la prochaine fois que je prends l'avion, je te ferai un coucou.
Ouais.
De l'Uplo.
Mental.
Alors oui, tiens, moi j'ai une dernière question quand même sur le vocabulaire. Charlie, Tango, Charlie, ça se passe comment?
Ah ouais.
Alors, l'alphabet international existe parce qu'à la radio, si vous dites T, j'ai dit T ou j'ai dit D là?
Ah.
Voilà, mais avec la fréquence, l'avion qui est loin, le grésillement, bah, t'es pas sûr. Donc du coup, pour enlever tout doute, du coup, on a dit que D c'était Delta et T c'était Tango. Et là, il n'y a plus aucun doute, vous savez de quoi je parle.
Radio Emma, ça ferait quoi du coup?
Alors on fait Emma déjà, Echo, Mike, Alpha.
Oh, la classe.
Oh, classe.
Eh ouais, grave.
Alors ça il faut le garder. Echo Mike Alpha.
Ah, j'adore. Eh ben voilà, Echo Mike Alpha, Radio Echo Mike Alpha.
Bonjour.
Nous sommes à 3000 mètres d'altitude. Votre commandant qui vous parle.
On va faire comme le personnage.
Attends, on y est là. Bon, merci beaucoup en tout cas, Julie Danlot, d'être venue parmi nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Et un vrai bel échange. Et si le rendez-vous est pris, dès qu'on pourra en tout cas, je serais ravie qu'on poursuive la deuxième phase.
Moi aussi, parce que c'était tout le projet.
Ouais, ah, génial. On se quitte avec Mario, Let Me Love You.
Yes.
Qui était donc ton choix, Charlotte?
C'est mon choix à moi. Un peu, je sais pas, j'aime bien cette musique et ça fait un peu romantique, machin, j'aime bien.
Waouh. Alors on finit avec une touche de romantisme.
Yes.
Allez, c'est parti, on se quitte avec Let Me Love You, donc de Mario. Et à la prochaine fois, et merci encore Julie. Ciao, ciao.
Merci beaucoup.
Ciao.
Merci.
Salut.
just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why.
If I was your man,
baby, you
never worry about
what I do.
I'd be coming home
back to you every night, doing you right.
You're the type of woman
deserve good fame.
Fist full of diamonds,
a head full of rain.
Baby, you're a star.
I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. A baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you. Love you, love you, love you. Yeah. Listen, your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99, and it's a shame. Don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop and stare, 'cause you're bad and it shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know.
If I was your man,
baby, you
never worry about
what I do.
I'll be coming home
back to you every night, doing you right.
You're the type of woman
deserves good things.
Fist full of diamonds,
a hand full of rings.
Baby, you're a star.
I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me.
You deserve better.
You know you deserve better.
Together,
baby, with me and you, it's whatever, girl. Hey, so can we make this thing ours? You should let me love you.
Let me be the one,
To give everything you need. Yeah, said everything. Will you take me, baby?
You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need.
That good love and protection.
Make me your selection. Show you the way love's supposed to be.
Check.